Omar Mouldouira. Mouldouira, ça veut dire en marocain, en dialecte marocain, le propriétaire de la petite maison.
Omar Mouldouira est un jeune cinéaste qui a déjà tourné 2 courts-métrages et qui prépare actuellement un long-métrage sur le thème de la migration et l'identité. Sa vie, c'est la France et le Maroc, mais puisqu'il a pu choisir, il a choisi Paris, qu'il a vu naître. Mais avant de se décider, il a dû expérimenter la vie marocaine, se poser des questions sur ce qu'il est, sa culture, son identité profonde. Nous l'avons rencontré lors du festival méditerranéen de Montpellier, où il présentait un court-métrage, Messaoud, et un projet de long-métrage pour lequel il souhaitait une bourse d'aide.
Alors, je suis né à Paris il y a un peu plus de 34 ans. Vers l'âge de 12 ans, toute ma famille est rentrée définitivement au Maroc en acceptant ce qui s'appelait à l'époque l'aide au retour au pays. J'ai donc enchaîné des études dans un lycée français parce que je passais en 5e à l'époque et malheureusement j'ignorais la lecture de l'arabe. Je parlais le dialecte quand j'étais à la maison en France, mais je pouvais ni lire ni écrire, donc je devais rentrer dans un lycée français, le lycée Lyautey de Casablanca, alors que mon frère, qui était encore très jeune, a pu intégrer une école publique marocaine. Donc j'ai passé de la 5e jusqu'à la terminale, j'ai eu mon bac là-bas. Ensuite, je suis revenu en France. À l'époque, je ne savais pas trop quoi faire. Donc j'ai fait un peu les valeurs sûres. J'ai fait un DUT informatique. Et déjà à l'époque, le cinéma m'intéressait parce qu'à la cité universitaire où j'étais en contact avec des étudiants en cinéma qui m'avaient déjà un peu parlé de la FEMIS. Et à l'époque, ils étaient à Paris 8. Puis j'ai intégré un groupe d'études cinéma. Puis après, je suis devenu... J'ai eu un poste un peu plus important où j'ai commencé à faire mes premières analyses de films, où j'avais la trouille à l'époque de parler des films des autres, mais je sentais que ça m'intéressait, que le cinéma m'intéressait et qu'en parler m'intéressait. Mais les problèmes ont commencé le jour où j'ai eu mon DUT, où je ne pouvais plus rester en France. Ma carte de séjour était expirée, donc je suis rentré encore une fois au Maroc. J'avais 20 ans. Donc j'ai commencé à chercher un travail dans l'informatique. J'en ai trouvé un qui faisait la fierté de mon père, mais ça ne me plaisait pas. Je me sentais malheureux, je me disais, j'ai 20 ans, je vais passer ma vie devant un ordinateur. Et en plus, il y avait des problèmes d'équivalence avec le Maroc, parce qu'un bac plus 2, le DUT, n'était pas encore reconnu, donc il fallait attendre, donc je n'étais pas payé. Et puis voilà, j'étais dans un désespoir tel, et je sentais que j'étais en train de faire un peu la même erreur que mon père. Mon père est retourné au Maroc, et depuis, il regrette. Parce que finalement, il est plus étranger dans son pays que quand il était les 20 ans qu'il a passé en France. Et moi, je sentais que je faisais la même erreur, que je retournais comme lui, mais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et dans le désespoir, et quand on n'a plus rien à perdre, ben, on tente tout. Et là, j'ai tenté la FEMIS. Quand j'ai terminé la FEMIS, c'était en 99, là j'étais devant un choix cornélien. C'est soit je retourne au Maroc, et là j'ai un travail qui m'attend, un travail d'ingénieur du son, et puis voilà, et j'ai un pied dans le cinéma, soit je reste ici. Et ce qui était bizarre, c'est que jusqu'à ce moment-là, malgré mes allers-retours entre la France et le Maroc, c'était clair que le Maroc, c'était mon pays, c'est le pays de mes parents, c'est là où j'ai toute ma famille. La France, c'est le pays où j'ai fait mes études, où, un peu comme si j'étais en mission. Et j'arrive donc à cette fameuse période de juin 99, donc je viens de finir la FEMIS. Et là, j'étais dans un espèce de trouble intérieur très profond parce que je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus où je voulais vivre et tout ce qui était évident ne l'était plus. Donc retourner au Maroc, ce n'était plus évident pour moi. J'ai l'impression que les 4 dernières années que j'avais passées en France, la France était en train de devenir mon pays. J'avais construit une vie sociale, affective. J'avais des amis, mes amis du Maroc, on ne s'écrivait plus, donc je les ai un peu perdus. Donc je me disais, mais il est où mon chez-moi? Il est là-bas ou il est ici? Parce que j'ai l'impression qu'il est plutôt ici. Et de cette confusion, et bien sûr, j'ai pris la décision de rester ici, sachant que c'était très, 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 très dur à tous les niveaux, mais je sentais que j'avais quelque chose au fond de moi que je voulais exprimer. Et que cette chose que je voulais exprimer, c'était ça, c'était la recherche de sa place dans le monde, dans la vie. Et c'est de là d'où est né le projet de l'Insoumis. C'est là où j'ai commencé à l'écrire, à essayer de trouver une histoire qui ne parle pas de l'immigration. On parle beaucoup d'immigration en ce moment, mais je pense que le problème, il est autre. C'est la migration. Il n'y a pas de préfixe. C'est l'immigration ou l'émigration. Parce que dès lors qu'on sort de son pays, on devient étranger, à jamais, surtout lorsqu'on revient chez soi. Parce qu'on a changé, forcément. Les gens qu'on a laissés, eux, ils changent d'une autre manière, mais nous, on a changé. Et lorsqu'on revient, on ne revient pas chez nous. Ça devient un autre endroit qui devient parfois même plus étranger que le pays d'accueil d'où l'on vient. Voilà, c'était cette problématique-là que je voulais aborder. Résumé en quelques mots, c'est l'histoire donc de Karim, qui était jeune beurre et immigré en France, son pays de naissance, qui devient inadapté et émigré dans son pays d'origine, et que lors de son retour en France, donc après son adolescence, se voit déclaré insoumis par l'armée française, c'est-à-dire pour la France. Il est étranger jusqu'à preuve du contraire, on ne lui a jamais donné la nationalité. Et pour l'armée française, comme il est né en France, eh ben il est français jusqu'à preuve du contraire. Et là commence une espèce de jeu kafkaïen où ce jeune Karim doit prouver à l'armée qu'il n'est pas français dans les mêmes tribunaux d'instance où 4 ans auparavant, il essayait de prouver qu'il était français. Donc commence alors une espèce de périple administratif, une espèce de quête d'identité à travers sa mémoire, parce que tout le film est construit en flashback. Mais l'incident déclencheur commence par ce jeune homme qui arrive en France, tout frais, et qui se fait arrêter à l'aéroport parce qu'on lui dit « vous êtes français ». Alors qu'on le voit dans d'autres scènes où il a un mal fou à avoir un visa.
Et ça, donc, ça permet de répondre peut-être à une question, qu'est-ce qu'être français ?
C'est plus compliqué que ça. Là, ça fait depuis 1995 que je suis ici. Et souvent, on me dit « Ah, tu as la double culture, c'est super, ça doit être vachement enrichissant, c'est bien d'avoir une double culture, t'as vu des choses, etc., tu dois avoir du recul. » Et en fait, non, c'est un vrai combat intérieur. Parfois, j'en parle autour de moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans mon cas. C'est pour ça que je voulais raconter cette histoire, parce que je sentais, pas parce qu'elle m'était proche, mais je sentais qu'elle avait ce côté universel, qui est qu'on a un peu un dragon à l'intérieur, parce qu'on ne sait pas qui on est. C'est vraiment une crise d'identité. On ne sait pas si on est marocain, on ne sait pas si on est français. C'est pas qu'une question de nationalité, c'est que du coup, on se dit, mais on est quoi, en fait ? Le moment où on commence à fumer le calumet de la paix avec soi-même, c'est quand on se dit, eh ben, on est le mélange des deux, on est les deux, on se définit par les deux, on est autant ceci que cela, on est autant français que marocain, on est autant musulman que laïque, on n'est pas obligé de choisir. Parce que souvent, on a l'impression qu'on nous oblige, qu'on nous met la pression pour qu'on choisisse notre camp. Eh ben non, on n'a pas de camp à choisir, et puis voilà, et c'est comme ça.
J'allais justement parler du regard des autres, de la population ici en France, et même y compris au Maroc, quand vous êtes retourné au Maroc. Est-ce que ce regard-là vous indique quelque chose sur vous ?
C'est marrant parce que à chaque fois, quand je faisais mes études en France et donc quand j'allais dans ma famille pendant les vacances, là-bas, on m'appelait le Français. Le Français, le touriste, le Parisien, etc. Alors qu'ici, on ne m'appelait pas l'immigré, bien sûr, parce que ce n'était pas poli de dire ça. Mais je sentais dans le regard que j'étais l'étranger, ne serait-ce que quand je suis invité quelque part, pour un dîner, par exemple, et qu'on me regarde avec des yeux ronds, un point d'interrogation qui dit très fort « Est-ce que tu manges du porc ? Ça va aller ?» Donc forcément, on a ce regard-là. Et ce regard-là, ben, parfois, même s'il est maladroit, c'est jamais méchant, mais ça nous travaille. C'est pour ça que je parlais de dragon intérieur, parce qu'on se dit, tiens, on est en train de me mettre dans une case, etc. Et plus récemment, j'essaye, mais maintenant ça devient naturel, c'est-à-dire que je ne fais plus cet effort-là, de me montrer comme un individu. Voilà, comme je suis Omar Mouldura, point. Je ne suis pas forcément que marocain, je ne suis pas forcément que français, je suis Omar Mouldura, je suis un individu qui a envie de s'intéresser aux autres. C'est pour ça que mes amis, depuis que je suis en France, je n'ai pas beaucoup d'amis marocains. Je dois en avoir un. Parce que je n'ai pas envie d'être dans une communauté, je n'ai pas envie qu'on m'identifie à une communauté. Et bizarrement, maintenant que du recul, je remarque que tous mes amis, c'est des étrangers. J'ai des amis allemands, j'ai des amis brésiliens, j'ai des amis israéliens, libanais, et je me sens bien. Je me sens bien, et c'est ce que j'aime dans Paris, c'est ce côté cosmopolite. Et je pense que je me sentirais bien que dans un pays ou dans une ville qui soit un peu la ville des citoyens du monde. Et c'est ce que j'aime à Paris. Je pense que c'est pour ça qu'inconsciemment, j'y suis resté et que j'y suis attaché.
Alors maintenant, parlons du Maroc. Le Maroc, c'est le lieu où vous avez tourné votre court-métrage Messaoud. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce court-métrage ?
Alors ce court-métrage, c'était déjà une première expérience, dans le sens où c'est mon premier court-métrage au Maroc. Donc je vous avoue qu'au départ, c'était dur. C'était difficile parce que c'était un peu un retour aux sources et qui signifiait beaucoup pour moi. C'est-à-dire retourner au Maroc et faire un film là-bas et raconter une histoire de Marocain au Maroc. Donc il a fallu déjà que je m'y fasse, que je dompte toutes ces peurs qui sont liées à cette expérience. Ensuite, le miracle a été que cette histoire, ce scénario, je l'ai écrit ici en France, à Paris. Je l'ai un peu fantasmé. Et quand je suis retourné au Maroc, quand on a fait cette semaine de repérage, mes fantasmes devenaient réalité. Et je me disais, tiens, je ne suis pas à côté de la plaque, quelque part. C'est-à-dire, la façon dont j'imagine une histoire de Marocain, et surtout de pêcheur, le pêcheur marocain qui vit au bord de la mer et qui n'a qu'une envie, c'est de partir, parce qu'il est au bord de la mer, il est en contact avec l'horizon, et forcément, il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon ? Et bien, quand j'y suis allé, j'ai découvert ça. Et ça m'a conforté, et ça m'a encore plus donné envie que cette histoire soit en image, parce que je sentais que j'étais proche de la réalité. Et ça me plaisait de me dire que le cinéma peut aussi être... Le cinéma, c'est d'abord un désir, un fantasme qu'on a dans nos têtes et dans notre imaginaire, mais qui peut aussi servir la réalité et parler de choses très, très réelles, même si ça reste du rêve.
آه دير واحد النص فيه شي شركة أمبورتي
أنا اللي غادي نتأمبورتا
كيفاش؟
Mais Saoud, effectivement, a ce désir de partir. Il est marié avec une jeune femme ravissante qui lui prouve son amour, et qui, on va s'apercevoir, qu'elle est enceinte. Juste, d'ailleurs, elle va lui dire juste avant que lui parte avec un passeur, hein, c'est ça. Ça, ça pose les conditions du déracinement de certaines personnes qui, effectivement, quittent femmes et enfants pour aller vraiment travailler là où il y a de l'argent.
Le problème de Messaoud, c'est que, en fait, il est plutôt victime de la pression extérieure. Parce que quand on le voit, mes amis français, quand ils voient ce film, ils me disent, la première chose qu'ils me disent, c'est « Mais pourquoi il part ?» Il a une femme magnifique, il a une maison, bon, soit très modeste, mais au bord de la mer, il est en contact avec la mer, il pêche les poissons le matin, il les vend l'après-midi dans un souk. Qu'est-ce qu'il veut de plus ? Il a une vie merveilleuse. Et bien sûr, avec un regard occidental, on peut y voir que du bucolique et du merveilleux, etc. Mais lui, la vie qu'il est en train de vivre, c'est plus une vie de frustration. C'est la frustration de ne pas avoir assez, et de ne pas avoir assez, pas pour soi, pour être riche, mais de ne pas avoir assez pour donner à ses proches. Et ses proches, en l'occurrence, c'est sa femme. Il vient de se marier, et forcément, il a cette pression qui doit être millénaire sur ses épaules, qui est qu'un homme doit subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants, et qui doit être à la hauteur. Et il est persuadé qu'il n'est pas à la hauteur. Quand sa femme, au début, le matin, elle lui dit « c'est bon de se réveiller avec ton odeur de poisson », elle le nargue. Et lui, il le prend mal. Il le prend comme « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis qu'un vendeur de poisson, elle mérite mieux, je mérite mieux ».
D'autant qu'il y a une scène, en plus, on lui explique qu'il n'est pas fait pour ça.
Parce que tout premier plan, on le voit, il a un poisson dans un filet et il a peur de faire mal au poisson qui est collé, qui est accroché au filet. Donc, y a un bonhomme qui arrive, son ami d'ailleurs, qui est un peu l'intermédiaire entre lui et le passeur qu'on ne verra jamais, qui lui dit t'es trop sensible pour ce métier, t'es pas fait pour ça. Donc, il est pas à sa place. Et comme il n'est pas à sa place, c'est pour ça que ça peut-être rejoindre un peu l'insoumis, comme il n'est pas à sa place, il se dit sa place est ailleurs. C'est ça, en fait, cette problématique que je voulais développer, et je m'en suis pas aperçu. C'est qu'après coup, je me dis, ah oui, finalement, les choses se recoupent. C'est qu'à partir du moment où on ne se sent pas à sa place, eh ben, on veut aller ailleurs. Et on croit qu'ailleurs, c'est meilleur, quels que soient les risques. Et là se pose le problème du choix, en fait. C'est qu'est-ce qu'on choisit ? On choisit notre vie de maintenant, qui est telle qu'elle est, mais qui existe, et qui est, par exemple, pour Messaoud, une vie maritale, et un petit travail, tout ce qu'il y a de plus noble, ou prendre le risque d'aller ailleurs. Voilà. Et donc il fait ce choix-là, mais quelque part ça va se retourner contre lui.
Donc là, vous êtes au Festival Ciné Méditerranéen pour donc présenter le projet de l'Insoumis, tenter d'obtenir un peu d'argent pour monter ce projet. Une fois que vous aurez tourné ce film L'Insoumis, parce que je suppose que vous allez quand même le tourner et que vous allez trouver une production, est-ce que vous allez reprendre des thématiques avec ces problèmes de nationalité, de départ ? Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous une fois que vous aurez terminé L'Insoumis et que vous aurez peut-être répondu à quelques questions ?
C'est une bonne question parce que, en fait, ce film et ce projet, ça fait 5 ans que je le porte. Et de plus en plus, malgré les doutes, parce que chaque matin, je me réveille, je me dis, je ne vais peut-être pas y arriver, je ne vais peut-être pas arriver à le faire, etc. Et surtout, c'est un premier film. Et ce film est devenu une nécessité de le faire. Je n'ai plus le choix, je dois le faire. Et ce film aura sûrement les défauts de tous les premiers films, c'est qu'on y met tout. On y met tout nos tripes, toute notre histoire, toutes nos envies, toutes nos peurs. Et je sens que si je ne le fais pas, je ne pourrais pas passer à autre chose. Parce que j'ai envie de passer à autre chose. Il y a des milliards de thèmes qui m'intéressent et qui sont intéressants. Et je pense que les films qui vont succéder à L'Insoumis seront peut-être moins personnels, mais j'essaierai de parler d'autre chose. Mais un jour ou l'autre, je reviendrai sur cette thématique-là. Si ce n'est pas forcément les histoires de nationalité, d'immigration, ça sera sur la recherche de sa place ou d'identité. Ça reviendra. Mais ce film, il doit se faire. Je n'ai pas le choix pour passer à autre chose, justement.
Après l'école de cinéma de la Fémis, Omar aurait préféré faire un film de science-fiction, mais tout porte à croire que si l'on a une double culture, on se doit presque de l'illustrer, qu'on soit cinéaste, écrivain ou encore plasticien. Pour les cinéastes, Omar Mouldouira, Abdelatif Kechiche ou Rabah Amerzaimesh en sont l'illustration. Thank you.